Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue d'Actualité économique du jour qui sera dominée par deux sujets principaux. Bien sûr, la sortie du président de la République hier. Faut-il parler de socialisme de l'offre? François Hollande devient-il un président libéral? Un truc incroyable. Il y a eu ce tweet d'un chef d'entreprise assez croustillant. J'ai l'impression que celui qui m'a cassé la gueule la semaine dernière m'invite au restaurant parce qu'il réalise soudainement qu'il a besoin de moi pour payer l'addition. Il y a peut-être un peu de vrai. Et puis l'autre actualité, c'est évidemment les relations France-Allemagne. Rigueur, relance autour de ce manifeste piloté par Jean-Christophe Cambadélis que le PS doit rendre public aujourd'hui. Enfin, la version définitive. Dieu sait si le brouillon a été largement ébruité. Et on a Arnaud Montebourg qui en remet une couche. C'est dans les colonnes du Point de cette semaine. Il faut ouvrir les hostilités avec l'Union européenne. Il faut torer l'Union européenne. Toro, toro. Je le dis exactement comme ça.
J'adore Jean-Pierre qui me dit oui, BFM a sorti les cotillons et champagne.
Vous entendez des voix, vous ne savez pas qui c'est. Mathilde Lemoine est avec nous. Bonjour, directeur des études économiques d'HSBC France, auteur des grandes questions d'économie et de finances internationales publiées chez Deboc. Jean-Pierre Petit, président de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement, et Alain Madelin, président du Fonds Latour Capital. Alain Madelin, François Hollande est-il devenu libéral?
J'aimerais, cela étant, c'est une opération réussie, belle mise en scène pour finalement revenir à la case départ en ce qui concerne l'affaire essentielle qui était l'égalisation stupide des revenus du capital et du travail avec un dispositif d'exonération de plus-value qui nous met quand même toujours en tête dans l'imposition de nos plus-values par rapport à l'Allemagne, mais pas bien évidemment par rapport à la Belgique où il n'y en a pas, ou par rapport aux États-Unis, mais qui est déjà un peu plus supportable. Bref, on retourne plus ou moins à la case Sarkozy, qui était une mauvaise case d'ailleurs. La fiscalité... Celle-là. Si vous voulez fabriquer de la croissance aujourd'hui, vous êtes obligé d'investir énormément de talent et énormément de capital. Donc il faut que la fiscalité des talents et la fiscalité du capital soient beaucoup plus incitatives. Cela étant, c'est pas facile pour eux de faire ce recul. Ça, il a été fait, il a été bien fait. Je laisse de côté les autres mesures.
Politiquement d'admettre
oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Le font pas, hein.
Même si Hollande a l'habileté, c'est-à-dire c'était un malentendu. Tu parles comme c'était un malentendu. C'était une grosse boulette, quoi.
Voir une maladresse.
Oui, voilà.
On a perdu un an, il en reste 4.
Voilà, donc c'est plutôt bien. Ce que je regrette, je laisse de côté, on en reparlera peut-être, les petits trucs sur le visa pour les créateurs d'entreprises étrangers, les trucs...
Oui, le 0,40 sur la Banque de France, c'est un truc qui était demandé depuis longtemps, qui est enfin fait.
On pourra en discuter, mais l'essentiel, c'était la réparation de cette grosse boulette. C'est bien fait, bravo. Cela étant, on reste un peu sur notre faim, car à mon avis, ça reste l'occasion perdue, non pas d'un tournant, parce que c'est jamais facile de dire à un chef de l'État qu'il doit tourner par rapport à ce qu'il a annoncé, mais à mon avis, il y avait une occasion perdue, parce qu'il suffisait de dire, bon voilà, première étape, dans l'urgence, il fallait remettre en ordre nos finances publiques, ce qui est vrai. Remettre en ordre les finances publiques en cours d'année, c'est quand même vrai aussi que vous ne pouvez pas échapper à des impôts supplémentaires.
On est d'accord.
Voilà. Et donc maintenant, voici la deuxième étape qui consiste à, c'est encore une phrase de Hollande, le socialisme de l'offre, ou remettre la France en mouvement. Remettre la France en mouvement, c'est créer une société d'opportunités, liberté pour les entrepreneurs, liberté d'initiative sociale, etc. Une fois de plus, ça manque un peu de chair et de cohérence.
On remet quand même dans le dictionnaire socialiste des mots comme risque, performance, réussite. Alors on va continuer le tour de table pour voir comment vous avez vécu l'événement, voir si notre optimisme depuis ce matin s'effondre déclaration après déclaration. Mathilde Lemoine, lecture de l'événement d'hier.
Il aurait fallu voir plus large.
Commencez par « il aurait fallu », Mathilde. Alors, évidemment, on commence comme ça.
Il aurait fallu voir plus large. Pourquoi ? Parce que la transmission d'entreprise, c'est effectivement un problème et il faut le traiter. Mais au-delà de ça, on est dans une situation de crise grave. Ça signifie que l'investissement est très insuffisant. Ça signifie que notre stock de capital vieillit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'investit pas assez depuis 2008 et que donc la rentabilité du capital va être de plus en plus faible. Et donc il va falloir petit à petit mobiliser de plus en plus de bénéfices pour embaucher. Donc on accentue la substitution du capital et du travail. D'accord. Et ça, c'est très dommageable pour la croissance de sortie de crise et la croissance potentielle. Et les Américains sont assez sensibles à ce problème. Et à chaque fois qu'ils rentrent dans une crise importante, ils l'ont fait en 2001, Obama l'a fait avec son plan emploi, il propose un amortissement accéléré fiscal pour justement inciter les entreprises qui vont bien à investir fortement. Et ça ne génère pas d'effet d'aubaine puisque ces mêmes entreprises continuent d'investir quand elles sortent de la crise. Et là, ça permet d'éviter justement ce vieillissement du stock de capital qui est dû à la crise et ça limite la chute de la croissance potentielle en D'accord. sortie de crise. Et alors, je veux bien, on s'est focalisé sur la transmission d'entreprises parce que il y avait eu effectivement des orientations qui avaient été prises en début de mandat, mais aujourd'hui, il me semble que l'urgence est beaucoup plus sur la question de l'investissement parce que ça concerne aussi
c'est le principal moteur
l'ensemble de l'économie.
Et puis surtout, mais hier, c'était sauver la confiance.
Voilà. Ben, sauver la confiance, c'est aussi sauver la croissance de demain, c'est donner des perspectives demain. Il me semble que la première étape, l'urgent, encore une fois, c'est vraiment de faire comme les Américains quand ils font un plan emploi, ils soutiennent l'investissement. Ce qui est paradoxal, en France, on croit que l'emploi s'oppose à l'investissement. C'est pas vrai. Plus on investit, plus la rentabilité du capital est forte, plus on embauche.
D'accord. Jean-Pierre Petit, pour terminer cette...
Je veux juste rappeler des points d'abord avant de discuter de ce qu'il a dit, ce qu'il a pas dit. La France est 111e dans le classement du World Economic Forum pour la flexibilité du marché du travail sur 144 et elle est 128e pour la fiscalité sur les entreprises sur 144.
Hier on a eu les chiffres d'Eurostat sur toutes taxes confondues, on a le record de l'année.
Oui, voilà, donc voilà.
Mais
c'est la réalité.
Tout était terminé.
Après on a évidemment un beau parolier qui nous a fait un beau discours à la Guénaud là
un peu.
Sur le discours de Hollande, parce que j'ai vu des belles envolées, etc.
Aquilino Morel.
Voilà. Tout ça pour déboucher sur...
Il est meilleur que Guénaud, hein.
Ouais, enfin bon, ça se vaut, quoi. Enfin, voilà. Mais ça débouche sur une petite série, 4-5 séries de petites mesures ponctuelles, partielles, pas forcément cohérentes, et alors qu'il faut...
moi, je crois beaucoup... Tous les entrepreneurs appelaient de leur vœu malgré tout.
Oui, mais
tous les entrepreneurs appelaient de leur vœu malgré tout. Je suis d'accord qu'on peut dire que c'est de la mesurette sur mesurette, mais cette histoire...
Moi, je crois à la crédibilité de la politique économique. C'est ça qui est important. C'est valable pour la politique monétaire, pour la politique budgétaire, mais c'est également valable pour les actions structurelles. Ce qu'il faut, c'est changer les anticipations des acteurs. Et surtout des acteurs clés que, alors, pour le taux d'investissement, effectivement. Quand on regarde le taux d'investissement en zone euro et qu'on le voit aux États-Unis, il y a de quoi pleurer, hein. Mm-hmm. Voilà. Parce que.
C'est inquiétant pour l'avenir.
Voilà. Évidemment. Il s'est effondré en 2008-2009. Il s'est un petit peu redressé en 2010-2011. Puis il rebaisse à nouveau. Et on est à des années-lumière du niveau pré-crise.
Et sur plus longue période aussi.
Ah bah, sur plus longue période.
Si vous le faites, si on le fait sur 30 ans, c'est abominable.
C'est abominable. Donc, la croissance, quand je vois qu'il y a encore des organismes qui parlent de croissance potentielle à 1 ou 1,5 en France, c'est ridicule. Il suffit de regarder la population d'âge de travailler, la productivité générale des facteurs, on est à 0. Ou 0,2, 0,3 peut-être, etc. Donc c'est horrible ce qui se passe. Donc moi je crois à la crédibilité, il faut un message structuré, il faut une unité de diagnostic d'abord, parce que faudrait quand même savoir de quoi on parle. Il faut
une unité des diagnostics.
Quels sont les problèmes de l'économie française? Est-ce que c'est un problème de compétitivité?
D'investissement, il n'y a pas de problème.
Non, mais attends, là tu parles en macro là, mais c'est le problème de la compétitivité de l'offre. Bon, il y a plein d'exemples, le taux de marché au plus bas, les parts de marché baissent, le déficit commercial se creuse. Enfin, on pourrait mentionner des quantités d'indicateurs qui attestent d'un problème de compétitivité de l'offre. Voilà, le problème principal, si on devait le dire, c'est la compétitivité de l'offre. Voilà, une cohérence dans les discours et dans les faits, parce que sinon, voilà.
Ça, c'est fondamental. Et là, tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que c'est la bande-annonce d'un film.
Une détermination et un leadership. Voilà. Vous aviez tout ça en 1979 lorsque Lady Thatcher est arrivée aux affaires en mai 79. On l'a pas aujourd'hui, donc voilà. On en est à des années-lumière. Il faut un ensemble de facteurs pour favoriser une thérapie de choc en France. Voilà.
Le socialisme de l'offre, pour reprendre une expression utilisée par certains, reste à inventer et reste. On est sur notre faim. Moi, j'adorerais qu'Hollande, au lieu de s'embêter dans des mesurettes qu'il détaille lui-même, alors que c'est du niveau du secrétaire d'État, nous dresse un grand tableau qui redonne confiance, donne chair à ce socialisme de l'offre. Parce que c'est possible. On peut avoir une politique libérale de gauche. C'est tout à fait
côté,
possible.
Il y avait un côté grand tableau hier, hein, la flamme.
Non, c'est pas ça. C'est le côté grand tableau. C'est le diagnostic que vient de faire Jean-Pierre et Mathilde, c'est-à-dire sur la réalité économique, sur la nécessité de libérer les talents et donc de les récompenser, pas seulement dans le domaine économique, dans le domaine de l'initiative sociale. Il a fait aussi un socialisme de la créativité. C'est ça dont on aurait besoin. Donc ils vont aider à booster la créativité. Les socialistes n'aiment pas le capital ? Bon, à la rigueur, pourquoi pas ? Partagez-le. Dieu sait s'il y a des occasions aujourd'hui de partager le capital. Et on reste très en dessous. Ça devrait être ça aujourd'hui, le socialisme. D'accord. Qui s'attaque réellement à la pauvreté, favorise réellement l'enrichissement de ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, et de l'autre côté, partage le capital. Bon. Il y a une perspective là à tracer.
On a écrit le préambule du socialisme de l'offre hier, il reste tout le livre à écrire, ainsi que la conclusion. Juste une remarque sur Hervé Novelli, que vous connaissez bien d'ailleurs, à la Madeleine, qui était chez nous hier et qui a jugé que, dans la mesure où effectivement on réhabilite les mots risque, performance, réussite, entrepreneur, eh bien François Hollande ne peut plus garder les ministres qui ont pris ouvertement des postures d'hostilité ouverte face aux entrepreneurs, face à la réussite, face au profit, face à la performance. Et évidemment, il s'agit de Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Cécile Duflot. Est-ce que cette nouvelle posture politique impose de changer le gouvernement pour sortir les éléments les plus hostiles?
Non, mais s'il y avait une vision cohérente, il faut qu'il y ait un gouvernement cohérent. D'accord. Je reste sidéré par le fait que l'on a eu un rappel à l'ordre des ministres de la part de Hérault, que l'on a eu un rappel à l'ordre du Parti Socialiste de la part de Hérault toujours, qui a fait un tweet en allemand pour dire c'est pas la ligne du gouvernement par rapport à la ligne très anti-européenne manipulée par le Parti Socialiste. Et là-dessus, aujourd'hui, Monsieur Montebourg récidive en disant le moment est venu d'ouvrir les hostilités en Europe. Bon, vous ne pouvez pas avoir une politique cohérente qui inspire confiance, mais elle n'existe pas, avec un gouvernement où il y a des gens qui participent au gouvernement sans le soutenir. Et une fois qu'on aura dit, qu'on aura fait cette remise en ordre du gouvernement, il reste à savoir, parce que l'un va avec l'autre, c'est avec quelle majorité.
Non mais le problème c'est que Hollande, il adopte une stratégie qui était celle de Mitterrand. Il préfère avoir des opposants à sa ligne dans son gouvernement qu'à l'extérieur, parce qu'ils sont moins efficaces dans son gouvernement, ou ils sont moins dangereux.
Ce qui n'est pas totalement idiot, sauf que quand on a besoin d'entraîner le pays, on a besoin d'un pacte gouvernemental soudé qui parle d'une seule voix, c'est évident.
Mathilde, quel bilan on peut tirer de la première année de François Hollande ? Moi, j'ai le sentiment qu'on a perdu un an, mais qu'il en reste quatre, et que l'urgence que l'on a décrite, notamment en termes d'investissement...
On a perdu deux ans, attends, Nicolas. Parce que tu as eu les primaires, les élections, qu'on fait perdre du temps, plus un mandat.
On a perdu dix ans.
Ils ont perdu dix ans pendant longtemps, mais ils ont perdu dix ans pendant lesquels ils n'ont pas inventé l'histoire. Le premier bilan, là, est-ce que...
Je vais être plus raisonnable. Paradoxalement, parce que c'est ça s'oppose tout à fait à ce que vous avez lu dans l'introduction, il y a eu de vraies avancées sur l'Europe.
Pendant cette première année.
Oui. Et c'est suite à l'arrivée de François Hollande que a été conclu l'accord sur l'union bancaire et l'accord approfondissant encore l'union budgétaire.
C'est en chantier l'union bancaire pour l'instant, c'est pas fait.
Ah mais j'ai dit l'accord.
D'accord.
J'ai dit l'accord. Et ça a donné un souffle justement à la construction européenne, puisque ensuite Draghi a pu faire son annonce comme quoi l'euro était sauvé, et ça a créé une dynamique très positive, puisque les taux d'emprunt italiens sont inférieurs à ceux qu'on avait observés avant la crise. Donc il y a eu cette dynamique, et je trouve que le gouvernement actuel y a participé.
D'accord.
Donc ça, c'est le mon premier point. Mon deuxième point, c'est en ce qui concerne les mesures qui sont annoncées comme améliorant la compétitivité et l'emploi. Alors, sur la mesure améliorant la compétitivité, je pense évidemment au CICE. Là, c'est dans la grande lignée de ce qu'on a connu depuis les années 90. Je pense qu'visiblement, il y a un consensus national pour dire que le moyen de retrouver la compétitivité, c'est de baisser le coût du travail.
Faux.
Probablement, on va se retrouver dans 5 ans exactement au même point qu'aujourd'hui, parce que on sait bien que ça ne permet pas d'améliorer la compétitivité d'un pays à l'extérieur, et que pour ça, il faut améliorer la compétitivité hors prix. Et pour ça, il faut favoriser l'investissement, c'est-à-dire, et c'est là où ça demande un courage politique, supprimer les niches qui favorisent le non-investissement. Et on pense à la déduction fiscale pour intérêt d'emprunt, on pense évidemment à l'assurance vie. Donc on en parle beaucoup depuis 20 ans.
Les rentes.
On en parle beaucoup depuis 20 ans, mais on fait rien. Et donc là, vous voyez, je ne sais pas quoi dire, parce que finalement, il a juste fait, on a salué en disant c'est la compétition, mais c'est juste, Gallois, c'est la même chose que les années 90.
Et Fontanet a fait une très bonne remarque, il a dit, on devrait juste pouvoir essayer de remplacer les actions par les œuvres d'art dans l'ISF, pour voir, comme ça.
Oui. Mais bon, c'est vrai que là, il y a une continuité de la politique économique française, hein, qui dépasse, je pense, les gouvernements, et qui, malheureusement, nous met droit dans le mur à chaque fois, parce que ça crée une petite dynamique à court terme. Alors, on a un excédent commercial, ce qu'on a vu au début des années 80, des années 2000, et puis après, bah forcément, si le prix des matières premières augmente, la marge baisse, on peut plus investir, et puis à nouveau, on a un problème de compétitivité prix. Donc, il faut baisser jusqu'où ? Jusqu'au niveau des salaires chinois. Enfin, d'accord. C'est quoi la limite ? Vous voyez, on est dans cette spirale très négative, on n'arrive pas à en sortir. Encore une fois, depuis le début des années 90, donc c'est pas nouveau.
D'accord. Bilan là, pour terminer, on a 2 minutes 30 pour terminer le bilan de la première année. Est-ce que vous arrivez à garder quelque chose de bien ? Sortons du discours d'hier qui est une sorte de virage sémantique, en tout cas pour l'instant. On attend de voir le film. Est-ce que vous arrivez à garder une mesure, une bonne mesure qui a été prise, une bonne décision ?
Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Moi, je n'attendais rien de ce gouvernement. Donc, je n'attends rien de la classe. Je n'attends rien de la classe politique française. La France est dans une spirale de décadence depuis très très longtemps. Est-ce que c'est pas vrai ? C'est vrai, c'est faux. Enfin, voilà.
D'accord, mais bon, ils font des trucs pas bien, bien. Ils reconnaissent certaines erreurs.
C'est ces mesures là, ces petites mesures partielles, ponctuelles, variables dans le temps. Ce qu'il faut, c'est un U-turn, un changement d'anticipation. Et donc, c'est quelque chose qui ressemble à une thérapie de choc, c'est-à-dire un ensemble de mesures prises dans un temps assez limité, qui soient cohérentes entre elles, qui soient de nature à changer durablement les anticipations. Voilà.
Allez Alain, petit bilan, première année.
Écoutez, sur l'essentiel, la productivité de l'État, la productivité des entreprises, rien. Et il n'y a pas de solution au problème de la France si l'on ne met pas de l'efficacité dans la dépense publique et si l'on ne met pas de la créativité et du capital abondant à l'intérieur des entreprises. La voix, quand j'entends le président de la République qui s'est rallié à ce crédit d'impôt compétitivité qui est absurde, on va s'apercevoir dans quelques temps que ça ne mène à rien, comme je l'ai déjà toujours dit ici, c'est pas avec 200 euros ou 50 euros ou 60 euros qu'on va gagner sur une voiture qu'on va la vendre. Il faut être capable d'avoir un produit que les gens sont heureux de payer 200 ou 300 euros de plus. C'est pas en diminuant le coût du travail éternellement, c'est une erreur monumentale. Sarkozy l'a faite, les socialistes la poursuivent. D'ailleurs, au fond, si j'avais un critique à faire, je la fais de temps en temps vis-à-vis de quelques ministres socialistes qui m'écoutent parfois, je leur dis, écoutez, pourquoi vous poursuivez la mauvaise politique d'avant ? Car il y a beaucoup de continuité, hein.
Bien sûr.
Écoutez, on va marquer une pause. On va s'intéresser aux relations franco-allemandes dans un instant. Il va y avoir ce document. C'est très très drôle d'ailleurs la séquence politique. Hein. On vous dit que le document est édulcoré de ses formules les plus assassines et en fait on bâtonne pendant 3 jours la formule assassine qui n'est pas censée figurer dans le document final. Histoire que la formule assassine ne figure pas dans le document final mais que tout le monde l'ait bien entendu. Alors voilà, est-ce que Merkel est coupable effectivement ? Est-ce que le diktat de l'austérité est imposé par l'Allemagne ? Est-ce qu'elle est bien la chancelière de l'austérité ? Mais en même temps, bon, est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de différer encore les réformes structurelles nécessaires ? Alors certains commencent véritablement à trouver que Louis Gallois a raison. Et vous me direz ce que vous en pensez. Lui, il veut qu'on ait plus de temps. Et Louis Gallois, il veut que la BCE fasse plus. Et notamment, on attend Mario Draghi demain, plutôt jeudi, dans 48 heures. Et puis qu'on fasse une politique de relance en Europe. Il y avait un volet croissance dans le TSCG, le pacte budgétaire à 120 milliards, qui pour l'instant est dans les limbes. Mais enfin bon, a priori, il existe toujours. On verra ce qu'on peut en faire. On se retrouve d'ici quelques minutes. Retour avec Mathilde Lemoine, elle est directeure des études économiques chez HSBC France et elle publie les grandes questions d'économie et de finances internationales chez Deboc. Jean-Pierre Petit, qui est président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil de stratégie d'investissement, et Alain Madelin, le président du Fondateur Capital. Il y a eu pas mal de mails d'auditeurs. Bruno dit, vos émissions ressemblent à un tube d'aspirine. On discute de mesurettes, on essaye d'y croire, mais la dépense publique, c'est 56% du PIB. Soit on la réduit d'un tiers rapidement, soit il n'y a pas de solution. Alain nous écrit, face à la complexité, c'est l'approche systémique qui est la plus adaptée, mais l'approche systémique est très peu enseignée. Je crains que nos gouvernements n'en aient jamais entendu parler. Il y a Thierry, ce qui détermine mon action d'investisseur, c'est la somme CSG plus taux marginal de mon impôt sur le revenu, plus taux marginal de mon ISF multiplié par mon espérance de vie, plus taux marginal de l'impôt sur ma succession. Faites le calcul, il reste 25%, écrit-il. Nicolas, hier, on a eu des entrepreneurs BA, tandis que le cadre moyen que je suis va se faire prendre 3 000 € d'impôt en plus. Voilà, le salarié est le seul à se faire tondre et à ne rien récolter pour que l'État reste obèse. Il y a Jérôme qui trouve que, Jean-Pierre, vous êtes nuisible au moral. Il dit, ce monsieur est nuisible au moral.
L'actif le plus important, c'est la lucidité. Dans toutes nos actions patrimoniales, économiques, etc. Quel est le...
Un impôt sur la lucidité rapporterait peu par les temps qui courent.
Oui, et effectivement, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Bon, et ce qui est bien, c'est que la lucidité progresse dans notre pays. C'est-à-dire que quand je parlais de décadence de la France, par exemple, il y a 5-6 ans, bah, il y avait des gros yeux, maintenant, de moins en moins. Voilà.
Et vous connaissez...
Sauf votre auditeur,
apparemment. Sylvain Rébi, hein, le patron d'Orientis, la maison mère de Kousmiti, qui explique quand même, et Dieu sait si pourtant c'est quelqu'un qui est plein de vie, bah, il explique qu'il a sauvé sa boîte en étant pessimiste. Et que s'il avait été trop optimiste à une époque, il aurait probablement coulé. Enfin, Jérôme c'est le même, ça. Qui écrit, que l'on sache, Lagarde ne s'est pas fait sortir du gouvernement quand elle invitait l'Allemagne à consommer plus. Les propos de Lagarde en faveur d'une relance de la demande intérieure en Allemagne n'étaient pas exactement les mêmes termes que ceux qu'on a entendus ces dernières heures dans la bouche des ministres.
Mais il y en a eu plein de Lagarde. Il y a eu plein de Hollande, plein de... Ils tiennent des discours ambivalents.
On n'appelait pas à l'estocade dans le dos d'Angela Merkel, quoi. Pour reprendre les propos de Montebourg dans le point. Juste un mot pour terminer, là, sur l'histoire de la fiscalité des pigeons. Vous voulez dire à la Madeleine que la révolte fiscale, ben finalement...
Oui, il y aura peut-être une leçon qui va être retenue. C'est qu'effectivement, la révolte fiscale, ça paie.
Eh oui, finalement.
Ben, ça avait payé dans les années 80 en Californie.
Mais c'est, alors le sujet, c'est que pour réagir à ce que disaient les auditeurs, c'est que si effectivement la révolte fiscale commence à payer, la question va être la baisse des dépenses publiques.
Oui.
Il y a un moment donné.
Si vous voulez baisser les prélèvements, vous serez obligé de baisser la facture que ces prélèvements.
Non, mais le problème, c'est la révolte fiscale de qui? Parce que les lobbies fiscaux, il y en a partout. Et c'est pas forcément ceux dont on a besoin qui vont être le plus bruyants, le plus efficaces.
Oui, non, mais ça, c'est vrai. Ça, Jean-Pierre a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'au fond, l'entreprise médiatisée, un peu emblématique, etc., réussit à attirer l'attention sur elle et à obtenir, pour son cas particulier, un système particulier. Ça n'a rien à voir avec le règlement des problèmes.
Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est résoudre les problèmes de façon horizontale.
Les Pays-Bas ont-ils raison d'avoir gelé 5 milliards de baisses de dépenses? L'Espagne a-t-elle eu raison pour obtenir 2 ans de délai pour ramener ses déficits à meilleure fortune? Est-ce que le Portugal a raison de relancer ses entreprises? Est-ce que l'Italien Enrico Letta a raison de dénoncer la rigueur et de vouloir une renégociation du pacte de stabilité? Et même l'Islande hors Union se voit désormais gouverné par une nouvelle coalition qui a infligé la plus lourde défaite électorale aux sociodémocrates depuis l'après-guerre. Coalition eurosceptique, coalition hostile à la rigueur et à l'austérité. Ces pays-là ont-ils raison? Je sais pas, veut commencer? La liste commence à s'allier. Il y a eu Barroso qui a pris des positions, Lagarde a pris des positions, Olivier Blanchard a pris des positions, pas trop vite, pédale douce. Prenons le temps.
Je suis sidéré.
À la Madeleine. Et on fera après le Merkel
Bashing. De voir le tour que prend le débat en France, non à l'austérité.
Et là, j'avais une vision volontairement plus large.
Je vais élargir. Mais non à l'austérité, alors qu'il n'y a pas d'austérité, les dépenses publiques ont continué d'augmenter, les salaires n'ont pas baissé, etc. Et au surplus, cela veut dire, pour ceux qui disent cela, c'est que la dépense publique, c'est la solution, alors que nous savons que c'est le problème. Alors maintenant, quel problème est-ce? Il y a deux problèmes. Il y a le problème du fait que nous sommes, à l'intérieur de la zone euro, un petit club de bon fonctionnement de l'euro. Le bon fonctionnement de l'euro, on le sait, implique une discipline
budgétaire, de façon à ce que personne ne vive au crochet des autres, en laissant filer sa dette et en étant incapable de rembourser sa dette autrement qu'en empruntant à nouveau. Donc ça, c'est un problème de fonctionnement de l'euro. Il faut revenir, bien évidemment, à la discipline budgétaire, mais il y a encore bien d'autres problèmes de fonctionnement.
Madame Merkel n'a pas.
Et puis nous avons un deuxième problème qui est, au fond, est-ce que les marchés vont continuer à nous prêter de façon de l'argent aussi bon marché? Karine Berger et d'autres disent attention, c'est une fenêtre d'opportunité qui nous est donnée pour accomplir les réformes nécessaires, mais les taux d'intérêt vont tôt ou tard augmenter.
Un jour ou l'autre, on était encore en taux d'intérêt négatif à 3 mois hier, ce qui n'est pas normal. Donc, on n'a jamais vu un banquier qui nous prête de leur cave, qui nous paye pour nous prêter de l'argent.
Mais revenons sur ce dernier point. Donc, l'attitude des marchés. Les marchés, c'est une attitude un peu différente, à mon avis, de l'Allemagne. On ne nous demande pas de rétablir nos comptes n'importe comment et le plus vite possible. N'importe comment, c'est-à-dire avec des hausses d'impôts à la française qui peuvent tuer la croissance. On vous demande une vision à moyen terme et à long terme, vous assurant que vous serez capable de rembourser vos dettes. Donc ce qui implique qu'on peut mener aujourd'hui une politique intelligente qui consiste d'une part non pas tant à réduire la dépense publique, mais réduire la dépense publique comment ? Par l'efficacité de la dépense publique. Et l'efficacité de la dépense publique, c'est un enjeu mobilisateur qui doit être un enjeu de consensus. Et puis, deuxièmement, nous avons besoin de doper la croissance, car c'est la solution. Doper la croissance, on sait que c'est un marché du travail et de la formation professionnelle qui fonctionne. On sait que c'est une fiscalité de la croissance incitative. On n'y est pas, malgré quelques petits efforts. Et on sait que c'est davantage de concurrence dans la sphère productive. Et en ouvrant un certain nombre de secteurs, aujourd'hui rentiers, etc., la concurrence. Si vous faites cela avec une vision claire, vous avez tout le temps que vous voulez. Tout le temps que vous voulez.
C'est vrai qu'il faut un cap.
Bon, alors,
il faut un cap. Si on n'a pas de cap, le débat sur les dépenses publiques est intéressant. Quand il y a l'un de vos auditeurs qui dit qu'il faut couper très rapidement les dépenses publiques, la réponse est non. C'est pas possible car c'est très récessif à court terme et c'est pas supportable économiquement et socialement. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est faire un cap sur la productivité des dépenses, sur l'organisation des dépenses, sur comment augmenter l'efficacité. Mais il faut. Il faut bosser le sujet.
Ça veut dire que soit ceux qui ont pris des postures anti-Merkel, Marie-Noël Lindemann, Arnaud Montebourg.
Oui, mais bon, ils cherchent.
Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris ou alors qu'ils jouent un petit jeu.
Attention. Alors, l'Allemagne a été excessive quand même hein, sur l'ensemble. Quand on fait le bilan depuis de 3 ans et demi de crise de la dette.
On vient de dire que les Français.
Mais timing is crucial hein, dans la gestion des cycles. Hein, donc attention, ils ont été excessifs. Ils ont cru à l'efficacité de la surenchère budgétaire, qui s'ajoutait à une surenchère prudentielle sur les banques, qui s'ajoutait à une surenchère sur les coûts salariés unitaires parce qu'on peut pas faire varier l'euro, qui s'ajoutait à une phase de désendettement privé qui devait arriver, donc désendettement public sur désendettement privé, plus surenchère prudentielle, etc. Tout ça amenait une spirale récessive et dépressive en Europe. Et ce d'autant que on le demandait à tous les pays affaiblis en même temps de la zone euro. Donc c'est une erreur historique de l'Allemagne quand même, hein, du FMI, de Lagarde, de Trichet, tout ça. Hein. Donc ça. Mais aujourd'hui, en 2013, il est bien évident qu'on voit bien que l'Allemagne elle-même se rend compte de son erreur. Et que y a un assouplissement sur les délais, au moins, qui est obtenu. Il y a eu un assouplissement de la BCE. Enfin bref, il y a voilà.
Pour être honnête, à beaucoup qui même dans ce studio défendaient finalement au tout début cette austérité à tout craint.
Non mais ça c'était ridicule.
Alors justement, je voudrais rappeler. Voilà, ça fait maintenant plusieurs années que je témoignais que ce que demandaient les investisseurs, notamment internationaux, c'était une politique budgétaire crédible. Et à aucun moment ils ont demandé de couper les dépenses. Sans qu'il y ait de perspective à moyen terme. Et aujourd'hui, on a fait une étude qui montre que les investisseurs effectivement regardent autant la croissance que le solde primaire. Donc, vouloir faire croire...
On rappelle le solde primaire. Hein.
C'est les dépenses moins
les charges de dette.
L'intérêt payé sur la dette. Et donc, vouloir faire croire que l'austérité a été demandée par quelqu'un d'extérieur, je trouve que c'est quand même vraiment de mauvaise foi. Parce que le sujet depuis le départ, c'était quoi? Et on rejoint la première question de cette émission. C'est faire un constat sur quel peut être l'impact de la crise sur notre capacité productive. À partir du moment où on considère que l'effet de la crise est durable, c'est-à-dire que la croissance potentielle va être durablement plus faible, il va falloir ajuster le tendanciel de croissance de nos dépenses publiques. Donc avant la crise, c'était 2,2%. Après la crise, probablement, il va falloir que ce soit autour de 1%. Donc, ça veut dire ralentir le rythme de croissance.
Aujourd'hui, on est sur du 0,3%
et aujourd'hui,
en 2013.
De oui, alors après, ça dépend parce qu'il y a des effets. Bon, bref, c'est plutôt 0,5, 0,7. Mais je ne pense pas que ce soit le sujet. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le Conseil européen, donc les chefs d'État ou de gouvernement, ont demandé à la Commission d'être beaucoup plus souple sur la règle des 3% et de regarder la réduction du déficit structurel. Donc, tout ça va dans le même sens. Oui. Alors, ensuite, la question, c'est quelle est... Comment on fait pour ralentir la croissance des dépenses publiques, qu'ils soient plus en cohérence avec la nouvelle donne de croissance? Et là, on devrait être plus dans le qualitatif que dans le quantitatif. Mais ça pose la question du pouvoir et du poids politique, c'est-à-dire que dans les pays comme la Grèce, où le gouvernement est faible, il est beaucoup plus difficile de s'attaquer aux dépenses publiques d'efficacité que de baisser de 10% le salaire des fonctionnaires, par exemple. Voilà. Et donc, en Espagne, c'est pareil, où vous avez une décentralisation puissante. Donc, c'est cette question-là, c'est-à-dire comment on améliore la qualité des dépenses publiques. Et là, on s'affronte, si on veut vraiment baisser les dépenses publiques qui sont moins efficaces pour la croissance, on s'affronte à des lobbies qui sont extrêmement forts. De nombreux théoriciens de l'économie l'ont montré, et c'est une espèce de règle qui revient à chaque fois. Donc, je trouve que vouloir réduire ce débat de façon très politique en disant « c'est l'austérité qui nous met dans cette situation, c'est l'Europe », alors que l'Europe, soit dit en passant, c'est quand même nous, de dire
le
c'est Merkel.
Le pacte budgétaire, on l'a ratifié.
C'est Merkel, alors que, enfin, je sais pas, on est quand même nombreux, donc voilà, je comprends pas. Et donc, après, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas essayer d'être constructif sur quel type? Alors, soit à ce moment-là, ça serait plus honnête que ceux qui sont contre toute forme d'austérité, toute forme de ralentissement de dépenses publiques disent, nous, on considère que la crise n'aura aucun impact sur notre pays. Et donc, on n'a rien besoin de faire. Oui, mais voilà, ça serait ça le débat.
Le gouvernement est tout juste en train de se rendre compte que c'est
pas... À ce moment-là, il serait bien posé.
Le gouvernement est tout juste en train de se rendre compte, Mathilde, que ce n'est pas un trou d'air habituel.
Mais à ce moment-là,
n'est pas un bas de cycle normal.
Oui, mais il faudrait un constat partagé, comme
vous
le
avez...
Jean-Pierre.
Bravo Jean-Pierre Petit de dire la vérité, écrit Frédéric. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement et de la classe politique française. Dans son ensemble.
Je voudrais juste te dire un truc. C'est l'attaque contre l'Allemagne est très surprenante parce que l'Allemagne assouplit progressivement.
Des mots, regardez, hostilité.
Non, mais oui,
c'est ridicule. Combat démocratique.
C'est ridicule.
La confrontation.
Attendez. En plus, en 3 ans et demi là de crise de la dette souveraine, l'Allemagne a creusé l'écart. Enfin, l'image de l'Allemagne économique et politique a creusé l'écart. Je veux dire, ils ont préservé leur part de marché. Ils ont un équilibre budgétaire. Ils ont une dette publique qui diminue actuellement. Ils ont un excédent de la balance courante à 6-7% du PIB.
Ils aident les pays périphériques.
Ils bénéficient des transferts migratoires de main-d'œuvre qualifiée d'Europe centrale, d'Europe du Sud, actuellement. Ils creusent l'écart. Leur PIB réel est assez largement au-dessus du niveau pré-crise, alors que tous les autres pays, enfin, les grands pays, sont dessous. Regardez sur le plan politique. Angela Merkel, le 22 septembre, s'apprête à faire son 3e mandat avec je ne sais quelle coalition, mais son 3e mandat. Regardez, les autres majorités dans tous les autres pays se sont pris des vestes aux élections. Regardez ce pauvre Hollande qui, au bout de 11 mois, est au plus bas historique des sondages. Enfin, c'est quand même la force économique industrielle, c'est 40% de l'industrie de la zone euro, l'Allemagne. Et la force politique de l'Allemagne s'est considérablement renforcée au cours des trois dernières années. Et ça, c'est un virage historique extraordinaire.
Vous êtes en train de décrire un pays.
Parce que les années 90, n'oubliez pas les années 90, l'Allemagne était affaiblie par la réunification.
Vous êtes en train de décrire un pays qui a parfaitement les coudées franches pour vivre sans nous.
Non. Alors ça, c'est encore autre chose. Vivre dans nous, c'est la sortie de la zone euro. Ça, j'y crois pas pour des raisons politiques et pour des raisons économiques. Non, alors il y a un seul truc à surveiller en Allemagne, et ça, c'est un truc clé, c'est le parti anti-euro. Car c'est la première fois qu'on voit un parti politique depuis 1949, clairement, pour une sortie essentielle de l'Union européenne, enfin on va même dire pour une sortie de l'Union européenne, car si on sort de la zone euro, on sort de l'Union européenne, c'est la première fois que je vois ça. Tous les autres partis depuis Konrad Adenauer, que ce soit CDU, CSU, FDP, SPD, ont toujours été favorables à tous les aspects de la construction européenne, sans consultation de l'opinion publique, car je le rappelle, il n'y a pas de référendum en Allemagne depuis le 19 août 1934.
Certains se mettent à espérer d'ailleurs une victoire du SPD le 22 septembre.
Mais ça change rien.
En imaginant qu'une victoire du SPD ferait que les Allemands mettraient soudainement du vin dans leur bière.
Mais regardez les positions de Steinbrück, c'est pas du tout favorable.
Votre opinion, avant de parler, terminer avec la BCE, votre opinion sur la Merkel est-elle coupable, puisque c'est la question du moment, quoi. Comment vous avez vécu la séquence? C'est une séquence beaucoup plus politique qu'économique. J'admets qu'on sort un peu de, on est un peu hors cadre, mais. À Madeleine.
Oui, moi je pense que le débat sur l'austérité est totalement faussé. Donc c'est un fantasmatique en France. Il y a du temps qui nous est donné par la BCE qu'il faut utiliser pour faire un certain nombre de réformes de fond. Et plus on attend, moins on fait ces réformes, plus on se rend compte avec angoisse que le rendez-vous avec l'opinion va être terrible. Et d'ailleurs, lorsque Hollande avait le premier ou un des premiers commençait à poser la question de l'austérité allemande et d'un dialogue viril avec Madame Merkel, c'était pour des raisons, semble-t-il, politiques. C'est-à-dire se rendant compte qu'à un moment donné, cette politique économique dite d'austérité, elle crée un fossé avec les peuples qui risque d'être dangereux pour la démocratie, ce qui n'est pas faux.
Regardez l'Islande qui a voté donc pour une opposition très eurosceptique, un quart de l'Italie qui a voté pour...
Il n'y a pas d'autre solution que dans une meilleure Europe pour essayer de conjurer la déflation japonaise à la japonaise qui nous atteint et remettre en marche le système bancaire. Il n'y a pas d'autre solution que toute une série de réformes microéconomiques dans chacun des pays pour doper la croissance. Une fois que l'on a dit cela, il y a deux types de pays, me semble-t-il, en Europe, avec des politiques un peu différentes. C'est-à-dire que dans les pays totalement d'Europe du Sud, là où manifestement il aurait fallu avoir une dévaluation de la monnaie, si celle-ci avait été possible. On est conduit à mener une déflation intérieure pour rétablir un certain niveau de vérité des prix, c'est-à-dire que l'on fait considérablement baisser les salaires, baisser l'ensemble des coûts, ce qui est en soi n'est pas une mauvaise politique, mais qui est une politique extrêmement dangereuse politiquement. Et puis, il y a la France. Même s'il y a des pressions déflationnistes, on le voit bien, le crédit impôt compétitivité, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui consiste à dire aux gens, comme je peux pas baisser votre salaire, vous allez payer une partie de votre salaire par vos impôts, vous-même. Ou les négociations salariales, dans certaines circonstances, ça consiste à dire, on pourra vous faire travailler plus pour le même salaire ou baisser votre salaire. Donc,
C'est la prime à la casse qu'on se paye soi-même.
Moi, je pense personnellement que, en tout cas, en ce qui concerne la France, cette politique déflationniste salarial n'est pas la bonne politique. Certes, la France dépense trop, l'État dépense trop par rapport à nos richesses, mais en même temps, les Français produisent beaucoup moins que leurs capacités. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pas par la baisse des salaires, c'est par l'injection de créativité et de capital.
On a besoin de tout, on a besoin des réformes structurelles micro, mais on a besoin effectivement d'un accompagnement de la demande. Et on a besoin de la BCE, on a besoin d'un euro plus faible, on a besoin de taux réels négatifs.
Vous parlez
de taux négatifs,
demain.
Mais c'est pas du tout une anomalie.
Oui, mais je sais.
C'est une anomalie.
Mario Draghi,
c'est l'économie de bulle, les taux.
Demain.
De toute façon.
Pas demain, jeudi.
Avec les taux, avec les niveaux de dette qu'on a de toute façon qui sont là et qui resteront là, de toute façon, il n'y a pas une sortie par le haut qui ne passe pas par des taux d'intérêt réels négatifs pendant de très nombreuses années. Il faut se mettre ça dans le crâne une bonne fois pour toutes.
Est-ce qu'il a encore une cartouche, M. Draghi, à sortir? Alors tout le monde, Galois aimerait qu'il fasse du quantitative easing à l'européenne, qu'il fasse de la Banque du Japon en Europe.
Je vais répondre à votre question, mais avant je voudrais revenir sur les propos de M. Galois. C'est que, encore une fois, c'est peut-être une question de génération, mais ça fait 30 ans qu'on entend la même chose en France, c'est-à-dire la solution viendrait du miracle de la dévaluation et de la déflation salariale. Moi je veux bien, le résultat il est qu'aujourd'hui on a le taux de croissance du PIB par habitant le plus faible des pays de la zone euro. Depuis 10 ans, c'est ce qu'a montré l'OCDE. Donc, c'est un peu pénible aussi de voir que c'est toujours les mêmes personnes qui, depuis 30 ans, répètent les mêmes choses et qu'au final, je trouve qu'on est dans une situation quand même relativement peu positive. Alors, on va le dire avec un par euphémisme. Mais, donc, premier point. Pour répondre à votre question, oui, bien sûr, au-delà de ça, Mario Draghi a encore des armes. Et en particulier, un des sujets, c'est la transmission de la politique monétaire et les prêts aux PME. Et il serait possible de...
C'est très vaste, Mathilde. Transmission de la politique monétaire, c'est un concept qui n'est pas évident à
saisir.
C'est-à-dire
de faire en sorte que les taux d'emprunt des PME soient à peu près équivalents dans l'ensemble des pays de la zone euro.
La politique monétaire n'en reste pas effectivement dans une espèce de carcan.
Aujourd'hui, aujourd'hui les taux d'emprunt des entreprises italiennes ou espagnoles, c'est à peu près de 6% en moyenne, quand les taux d'emprunt des entreprises françaises, c'est à peu près 3% en moyenne. moyenne et des entreprises allemandes, c'est 2. Voilà. C'est parce que au-delà de la question du refinancement de la BCE, il y a aussi les taux de défaut là, qui jouent, etc.
Avant de revenir
ce que propose, voilà, mais si c'est important parce que une des voies les plus efficaces serait que la BCE autorise, alors c'est un peu technique, mais c'est quand même
allons-y,
le sujet,
allons-y,
autorise des comme collatéraux la titrisation de prêts aux PME, c'est-à-dire
les
que ce
bonds.
Soit les covered bonds, que ce soit des choses sécurisées, et donc ça permettrait aux assureurs français, par exemple, d'acheter ce genre de titres et donc de faciliter le prêt aux PME. C'est ce sur quoi la BCE réfléchit actuellement, et ça serait une piste beaucoup plus efficace, parce que le problème de la baisse du taux de refinancement, c'est que ça ne va pas se traduire tout de suite par justement une amélioration des crédits. On est dans une forme de trappe à liquidité, et comme le disait Jean-Pierre, le taux d'intérêt réel reste positif en France. Donc voilà, il y a des pistes qui sont étudiées, et c'est vrai qu'aujourd'hui le bilan de la, j'ai repris les chiffres là les plus récents, le bilan de la BCE en pourcentage du PIB, il est 32% contre 26% pour la Fed. Donc c'est pas une question de quantité. La BCE fait plus que la Fed. C'est une question de façon de faire.
Attention, parce qu'il y a des excès de liquidités qui vont vers les banques, mais la Banque Centrale Européenne ne rachète pas directement des actifs.
C'est ce que j'ai dit, voilà. C'est une quelle façon
bilan,
de faire.
C'est trompeur. Hein.
Bah oui,
ce qui compte, c'est vraiment ce que la BCE a racheté.
Pour alimenter le débat. Voilà.
Alors, en gros,
juste un truc pour... parce que Mathilde a évoqué les histoires de dévaluation, j'aurais dû juste dire que le véritable scandale, c'est de voir que entre 2001 et 2010, le taux de change effectif réel, c'est-à-dire la valeur effective réelle de l'euro, n'est pas arrêté de progresser, alors qu'on perdait des parts de marché dans l'industrie, etc.
C'est
ça, mais oui. C'est invraisemblable. On s'est plaint des délocalisations, de la désindustrialisation, on a perdu, et alors que la zone euro faisait elle-même que 1% de croissance durant cette décennie. Les pays, même vis-à-vis des pays émergents, c'est pas apprécié. On s'est pas déprécié. C'est invraisemblable. Alors qu'ils faisaient 6% de croissance par an, ce qu'ils n'avaient jamais fait sur l'après-guerre.
C'est
invraisemblable.
C'est encore Draghi qui va nous sauver, quoi. Il va nous sortir une bonne formule.
L'idiot du village global, c'est l'Europe sur la décennie 2000.
Si on croit que la politique monétaire résout tout, je pense que
on n'a pas dit résout tout, mais c'est pas la panacée, mais on a absolument besoin. Ça, c'est illusoire de penser qu'on ne puisse pas se passer
Mathilde,
de...
Là, le truc tient au-dessus... Enfin, il y a deux phrases qui font tenir le système. Hein. L'euro est irréversible, je ferai tout ce qu'il faudra. Vous retirez ces deux phrases de la sémantique européenne, honnêtement, sur quoi?
Non, mais la phrase d'après, elle consiste à dire, puisqu'on a... On reflate les banques, on remet des liquidités dans les banques, ce qui permet au système de tenir, mais ce qui n'atteint pas l'économie réelle. Donc, d'une certaine façon, c'est reflater un peu l'économie réelle, c'est la piste qui est tracée par Mathilde Lemoine, qui est la bonne. C'est autour de ça qu'il y aura peut-être un jour une phrase de Draghi qui sera un petit signal de plus.
Nous allons parler des covered bonds, notamment, et des obligations d'entreprise très prochainement. Merci Mathilde Lemoine, Alain Madelin et Jean-Pierre Petit. Rendez-vous, pas demain, mais on se retrouve juste.